Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, permettez-moi de commencer cette conférence spirituelle par trois tableaux. Trois tableaux tirés de la Sainte Écriture. Le premier nous vient de l'Évangile de Saint-Luc. L'Évangile de l'enfance qui nous relate la vie cachée de Jésus à Nazareth. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu reposait sur lui. Et à la fin, il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement tous ses souvenirs en son cœur. Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Premier tableau. La vie cachée de Jésus, vie très riche, quelques années qui préparèrent la vie publique du Christ. Je retiens particulièrement cette phrase, « Il leur était soumis et sa mère gardait fidèlement tous ses souvenirs en son cœur. Il le croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant tous les hommes. » Oui, le Christ a connu la vie de famille, la famille qui est le modèle d'unité dans lequel s'épanouit toute la personne, toute personne. Deuxième tableau, c'est l'épisode de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11. Très long chapitre, une des histoires qui est relatée dans les évangiles de la façon la plus complète, la plus développée, en particulier dans les dialogues et dans les relations qui existent entre le Christ et certains de ses amis. Marthe, Marie et Lazare, les membres d'une famille que Jésus affectionnait tout particulièrement. Famille que Jésus a visitée à plusieurs reprises. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de sa sœur Marthe. Cette Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Un peu plus loin, le Christ dit aux apôtres, « Il leur dit cela, puis il ajouta, « Notre ami Lazare repose, je vais aller le réveiller. » Et à la fin du long chapitre, le Christ parle à son Père. « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais bien que tu m'exauces toujours, mais c'est pour tous ces hommes qui m'entourent que je parle, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Le Christ a visité Lazare, Marthe et Marie en tant qu'amis, mais aussi en tant que prêtre, celui qui sauve, qui intercède auprès de son Père. Durant ces trois années de vie publique, le Christ eut des rapports très divers. Il prêcha aux foules, les grandes foules, la multiplication des pains. Il prêcha aux spécialistes, aux docteurs de la loi, même enfants, mais aussi il visita famille après famille. Le Christ ainsi a fait des rencontres, il guérit, il console, il aime, il écoute. Deuxième tableau. Maintenant, nous pouvons passer au troisième tableau, et peut-être que certains d'entre vous s'en sont déjà doutés. Le Christ avec les petits-enfants. C'est dans l'évangile de saint Marc que nous trouvons un des passages. Il y en a quatre en tout dans les évangiles où nous avons cette relation de cette attitude toute aimante, disponible de Jésus envers les enfants. Saint Marc écrit : On lui présentait de petits enfants pour qu'il les touchât, mais les disciples les rabrouèrent. Ce que voyant, Jésus se fâcha et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Et l'évangile, l'évangéliste qu'il termine, puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Vous voyez, il y a beaucoup de verbes qui expriment l'attitude et les sentiments du Christ envers ses enfants. Le Christ nous montre l'exemple, il a une attention toute particulière et cette attention a été reprise à quatre reprises par les évangélistes, le même fait, ce qui montre que ce n'était pas simplement une seule fois que le Christ a dû faire cela. Le Christ a une attention toute particulière pour les enfants, ces âmes innocentes et pures, qui sont capables, justement, de par leur pureté et leur innocence, de voir Dieu. Ces trois tableaux qui illustrent l'attitude du Christ prêtre, du Christ prophète, du Christ roi, intercesseur et sauveur du genre humain, nous aide à mieux comprendre peut-être ce que le prêtre doit pouvoir faire au service des âmes et en particulier au service des familles. En effet, cette œuvre du Christ ne s'est pas arrêtée dans le temps, elle continue par le ministère des prêtres, pourtant bien indigne, limités, qui ont des défauts, mais ce sont ces hommes choisis de Dieu, par Dieu, qui sont là pour perpétuer la mission du Christ sur terre, et je le répète, dans les familles et pour chaque âme. Cette mission vient du Christ lui-même. En effet, le Christ a choisi 12 apôtres. Le Christ a choisi 72 disciples. Et là, je voudrais lire les passages de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 10 que nous lisons à chaque messe des évangélistes. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de chaussures, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il s'y trouve un enfant, de paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux. Vous voyez, le Christ invite les apôtres, les disciples, à visiter les maisons. Vous savez qu'il y a plusieurs thèmes pour signifier une maison. On dit aussi un feu ou un foyer, c'est-à-dire un lieu, un espace où vit eh bien, les membres d'une même famille. Demeurez chez eux et visitez-les. Et le Christ, à ce moment-là, enseigne qu'il faut dire une phrase, « Paix à cette maison ». Et c'est une des choses à laquelle je vais revenir tout à l'heure. Le Christ fait plusieurs recommandations à ses disciples et dit « Baptisez et enseignez ». Il dit aussi « N'emportez rien ». Ses disciples, ses prêtres, doivent vivre dans la pauvreté. Et enfin, celle que j'ai dit tout à l'heure, « Entrez dans les maisons. Restez-y. » Ainsi, le but essentiel de l'apôtre, du prêtre, de tout homme de Dieu, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix dans ces maisons. Et la deuxième chose, que le royaume de Dieu soit arrivé chez vous. Alors, quelle est la place du prêtre dans une famille? Voici la question de cette conférence. Alors, dans un premier temps, je voudrais rappeler rapidement la notion de famille et qui est le prêtre. Et ensuite, l'application des trois fonctions du prêtre dans une famille, la fonction d'enseignement, la fonction de sanctification et la fonction de gouvernement. Et enfin, pour terminer, voir eh bien, quels peuvent être les fruits de la présence du prêtre dans une famille. Et moi, j'en vois tout particulièrement deux. La paix et la stabilité dans une famille. Et enfin, l'éclosion de vocation en général, mais surtout de vocation sacerdotale et religieuse. Tout d'abord, la famille, et vous l'entendez souvent, est une cellule de base de la société. C'est aussi une cellule de base de l'Église. Elle est composée d'un père, d'une mère et des enfants, au moins en désir. Cette famille est d'institution divine. Personne ne peut toucher l'essence de la famille. La famille est un lieu, un espace nécessaire à l'épanouissement humain dans tous ses aspects. L'intelligence, la volonté, la sensibilité, l'affection, la culture ou la mémoire. Comme il est dit dans l'Évangile, c'est un lieu où chacun grandit en sagesse, en taille, mais aussi en grâce. Et c'est ce qui fait la différence entre les familles humaines et les familles chrétiennes. Alors la famille est véritablement un trésor, un lieu de sanctification avant toute autre structure. On peut faire des merveilleuses écoles, des paroisses, je dirais des pays chrétiens, mais ceux-ci ne seront chrétiens que si les familles qui les constituent eh bien, sont elles-mêmes chrétiennes et unies. Personne, aucune institution, aucune structure ne peut remplacer la famille chrétienne. Alors, si la famille est quelque chose de si important, le prêtre doit y être présent pour aider de son mieux, à la suite du Christ, les membres de cette famille, mais aussi, je dirais, la famille en elle-même. prêtre. Le prêtre, c'est l'homme choisi par Dieu pour être au service des âmes. Le prêtre est l'homme de la messe, l'homme de la miséricorde, de la justice. Malgré son humanité, il doit essayer de remplir le rôle du Christ et de perpétuer son œuvre. Alors le prêtre est essentiellement instrument de la grâce de Dieu, comme ami de Dieu, mais aussi comme serviteur des hommes. Dans Saint Jean, nous lisons « Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je vous ai choisi et constitué pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Ça, c'est les paroles du Christ dans Saint Jean. Ainsi, comme dit le pape Saint Pie X dans son exhortation au clergé catholique, Erent animo, le prêtre doit essayer de remplir le rôle du Christ. Nous devons l'accomplir en prenant pour but celui qui s'est proposé, et comme n'avoir qu'un même vouloir et une même aversion est le propre d'une solide amitié, nous sommes tenus en qualité d'amis de conformer nos sentiments à ceux de Jésus-Christ, qui est saint, innocent et sans tâche. Envoyés par lui, nous devons gagner l'esprit des hommes à ses doctrines et à sa loi, en commençant d'abord par les observer nous-mêmes, en tant que participants à son pouvoir de délivrer les âmes des liens du péché. Nous avons l'obligation de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour nous préserver nous-mêmes du péché. Alors ce prêtre, qui doit essayer de remplir le rôle du Christ, et c'est là où nous nous rapprochons des trois tableaux du début, le Christ enfant qui grandit en âge, en taille et en sagesse, et en grâce, pardon, le Christ auprès des enfants, le Christ qui guérit ses amis. Alors le prêtre va pouvoir exercer sa charité pastorale, sacerdotale, peu à peu. Et celle-ci ne va avoir de légitimité que si le prêtre sait se configurer au Christ prêtre, au Christ prophète et au Christ roi. Et le prêtre n'a pas le droit d'abdiquer aucune de ses fonctions. Maintenant vient le temps justement de voir l'application de ces trois fonctions du prêtre dans les familles. Mais avant d'aborder cela, peut-être nous pouvons observer comme une mutation culturelle. En effet, maintenant nous ne sommes plus en période de chrétienté, nous ne sommes même plus en période de post-chrétienté. Nous sommes en période post-révolutionnaire, laïcisée et surtout antichrétienne. Auparavant, ces trois charges du prêtre, la sanctification, le gouvernement et l'enseignement, étaient évidents, je dirais acceptés ou voire même combattus. Mais il n'y avait pas véritablement d'indifférence. Cet rôle du prêtre était accepté de façon publique et parfois même soutenu, présent dans la culture et les mentalités, dans les habitudes sociales et toutes les relations. Il y avait dans ces époques-là un respect de la famille, de la loi naturelle, un respect de l'Église, un respect du sacerdoce. Et comme on m'a dit beaucoup de fois, en nous voyant en soutane, des personnes qui redécouvraient la soutane les personnes qui avaient quitté l'église, mais en disant, oh, je me souviens, respectaient celui qui portait la soutane. Le respect, nous l'avons perdu. Nous avons perdu aussi même le désir d'exercer la vertu. Nos ancêtres n'étaient pas des saints, des hommes très vertueux, mais ils essayaient de l'être. Ils reconnaissaient qu'ils étaient pécheurs. Le prêtre à cette époque-là était donc aidé par tout cela, par cette chrétienté qui existait. Il était souvent spécialisé comme homme des sacrements et certains autres prêtres comme enseignants. Nous avons beaucoup de figures. Mais désormais, le prêtre a bien du mal à passer. Il n'existe plus. Et d'un autre côté, les familles sont encore plus fragiles, vulnérables, et souvent bien seules. Les familles chrétiennes, bon, à Versailles, c'est un petit peu différent, et encore, il faut faire attention. Ces familles sont des petits îlots de chrétienté que le prêtre doit, lui, au moins, essayer de nourrir, que le prêtre doit encourager, que le prêtre doit aimer. Hein, combien de familles se sont senties parfois bien seules en certaines régions de France. Et là, c'est souvent en l'absence de prêtres que l'on voit que c'est bien difficile. Oui, le prêtre ne peut être un simple administrateur, un simple fonctionnaire des sacrements. Il doit être un père, il doit être un ami, il doit être surtout un serviteur des âmes et des familles. Le prêtre doit être tout à tous et son dévouement est garanti par la solitude inhérente à son sacerdoce. Le prêtre n'appartient à personne en particulier. Il appartient à tous. Il est d'abord homme de Dieu et non l'homme d'un petit nombre ou d'une famille. Il est ami du Christ, serviteur des âmes, ces âmes qu'il aime. Et ce prêtre, pour cela, doit toujours essayer de se configurer au Christ. Au Christ prophète. Depuis son baptême et depuis son ordination, le prêtre a reçu la foi. La révélation, il l'a en lui. Et sa vie doit être un témoin tout particulier de la parole de Dieu. Et son exemple aussi. En étant proche des familles, en allant les visiter, le prêtre doit toujours témoigner de la vérité de Dieu. Le prêtre, avant tout, doit transmettre, enseigner. Alors, je ne dis pas qu'il doit le faire à chaque fois, mais une visite de prêtre où il n'y a pas un petit enseignement qui mène à Dieu est bien stérile. Il ne doit pas passer lui-même, mais il doit passer la vérité. Et nous savons tous que c'est au sein des familles que se développe ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi, et qui est souvent très marquant dans certaines familles, certaines contrées qui ont su garder la foi. C'est souvent au sein des familles les plus unies et surtout formées que cela s'est fait. Comme on dit dans sa marque, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leurs paroles par les signes qui les accompagnaient. Le Seigneur travaille à travers ses apôtres, ses prêtres. Actuellement, le sens de la foi n'existe quasiment plus, même dans beaucoup de familles chrétiennes. Le Christ devient absent de la vie des familles. Alors, le prêtre doit compenser. Il doit répondre à sa vocation missionnaire et aider les familles qu'il peut rencontrer ou côtoyer, les cultiver, les soutenir à temps et à contre-temps. Le prêtre doit se configurer au Christ prêtre, c'est-à-dire celui qui a charge de sanctifier. En effet, le prêtre est avant tout homme de Dieu, homme du sacrifice, de la messe. Le prêtre est la seule personne qui peut agir in persona Christi. Et c'est dans cette charge qu'il est avant tout serviteur. Tout son être, ses mains, sa parole, est consacré au service des âmes. Il le fait dans l'action liturgique tout d'abord, dans le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, mais il le fait aussi dans tous les autres sacrements qui sauvent. Le prêtre le fait dans la prière, par les intentions qu'il reçoit et qu'il porte dans son cœur et qu'il ne doit pas oublier. Le prêtre le fait dans la prière officielle de l'Église, qui est la prière des psaumes. Et enfin, le prêtre aide à sanctifier aussi par tout ce qu'il peut faire dans la suite et l'esprit, je dirais, du lavement des pieds du Christ. Ce lavement des pieds qui a tant touché, je pense, le cœur et l'âme des apôtres. Donc ce sont toutes les œuvres de miséricorde, les présences. Ainsi, le désir essentiel du prêtre est que les âmes qui lui sont confiées se sanctifient et se rapprochent du Seigneur. Non que ces âmes se rapprochent de lui, mais se rapprochent de Dieu. Ainsi, ce n'est pas lui qui doit se mettre en avant, mais c'est toujours son Seigneur et son Maître. Alors, le prêtre prie avec les familles. Il offre des messes aux intentions de celles-ci. Il bénit, comme fait le Christ avec les petits-enfants. Il embrasse, il console. C'est un homme de Dieu, de cette manière un petit peu sacrée. Et le prêtre doit avoir le souci que la famille garde toujours pour elle-même et pour le prêtre un caractère sacré. En effet, Dieu est toujours premier servi. Ainsi, le prêtre est l'homme qui vient apporter le Christ aux âmes, et pas simplement à l'église, au confessionnal, mais aussi dans la rue et dans les maisons. Le prêtre, enfin, doit se configurer, se conformer au Christ roi, sa fonction de gouvernement. Le prêtre coopère à la charge pastorale de l'évêque. Il a donc une charge dans le soin habituel et quotidien d'une communauté qui lui est confiée, dans le domaine spirituel. Alors, dans ce domaine-là, le prêtre doit toujours agir avec prudence. Mais il est tout de même le pasteur, le bon pasteur qui imprime une direction à prendre. Et cette direction, c'est toujours le ciel. Après, chaque prêtre a, entre guillemets, ses façons de conduire les âmes au ciel. Les paroles qu'il dit ou les décisions qu'il prend ne sont pas forcément là pour plaire. Quand les âmes ou les familles invitent le prêtre, c'est pas forcément pour qu'ils entendent, eh bien, ce qu'elles veulent. Mais ces paroles ou ces décisions doivent répondre aux besoins des fidèles, aux exigences aussi de la doctrine catholique et aux exigences de la vie chrétienne. Beaucoup de prêtres, par respect humain, parfois ont failli à cela. Non, le bon pasteur est celui qui mène son troupeau au bon port, si l'on peut dire. Et comme il n'appartient à personne, il n'a aucun intérêt personnel à cela. Il a tout quitté pour s'acquitter de cette tâche. Le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Et parfois, ses brebis connaissent mieux le pasteur que le pasteur ses brebis. Et toutes ces brebis, les plus âgées, les plus jeunes, les plus cachées, les plus belles, ont toutes un nom, ont toutes une histoire extérieure, mais aussi une histoire intime. Et ainsi, le pasteur doit vraiment connaître ses brebis, en particulier les enfants, ceux qui sont les plus cachés, ils sont appelés à être connus par leur nom. C'est écrit dans l'Évangile. Il les appelle par leur nom. C'est pour ça qu'il me semble très important que le prêtre doit faire un effort tout particulier pour connaître chacune de ses brebis par leur nom. Dans cette charge de gouvernement, le prêtre doit savoir prendre conseil aussi, et savoir aussi donner des conseils, et pour cela, eh bien, il faut se former. Pas d'ignorance coupable, possible pour le prêtre. Alors le prêtre, de par cette fonction de gouvernement, va être soutien des familles par les conseils qu'il peut apporter et guide des âmes, pas de la vie de famille en soi, hein, mais guide des âmes, de chaque âme, dans les corrections ou les encouragements dits. Pour l'exercice de ces trois charges, le prêtre, s'il désire être un ami du Christ et le serviteur des âmes, s'il veut être un pêcheur d'hommes et soutien des familles, alors il doit être détaché, c'est-à-dire humble. Il doit être disponible, c'est-à-dire humainement abordable. Le Christ n'a pas fait peur aux petits-enfants. Alors ce n'est pas au prêtre de faire peur aux adultes, et encore moins aux enfants. Ce n'est pas lui qui prend la place, mais c'est le Christ en lui. Et les âmes, elles-mêmes aussi, qui peuvent avoir aussi leur place. Alors, la présence du prêtre, physique ou en esprit, dans les familles, peut avoir du fruit. Les fruits de la présence du prêtre dans la famille. Le prêtre, pasteur, ne peut pas matériellement être présent partout. Il n'y a que des Padre Pio, hein, pour avoir don d'ubiquité. Mais il peut l'être dans son cœur de prêtre, présent à toutes les familles, dans ses intentions de prière. Et il est aussi présent, je dirais, dans le cœur des familles, dans leurs intentions, ou dans les références qui peuvent être dites, ou dans le respect du prêtre qui existe toujours. Enfin, le prêtre est présent aussi, évidemment, dans l'exercice de sa charité sacerdotale. Comment ? En aimant ou en essayant d'aimer tout le monde de façon unique. Et pour cela, il doit savoir donner de son temps et connaître personnellement. C'était ce que m'avait dit une fois un jeune prêtre que vous connaissez, qui est venu ici, mais je tairai son nom, qui m'a dit « Tu verras, quand tu seras ordonné, il y aura une chose que tu auras perdue. » Et il m'avait dit, c'est le temps. On pense perdre beaucoup de choses, mais le temps, c'est quelque chose qu'on aime bien contrôler. Et c'est vrai, comme prêtre, je pense que c'est vrai aussi pour les parents, mais malgré tout comme prêtre, le temps est une des choses, une des circonstances de la vie qui ne nous appartient plus. Il y a toujours des imprévus, toujours des oui à dire. Oui, le prêtre doit aimer tout le monde de façon unique et sur nous, surtout personnellement. Le prêtre doit prier beaucoup pour les âmes qui lui sont confiées. C'est un des plus grands services qu'un vieux prêtre nous avait donné au séminaire, de dire, vous êtes au séminaire, priez déjà pour les âmes qui vous seront confiées plus tard. Oui, tous les jours. Le prêtre, même s'il ne veut pas être matériellement présent partout, doit être facilement joignable. Le prêtre n'est pas simplement, il l'est, mais la personne que l'on voit loin, le dimanche, à la messe, à l'autel. Il doit être capable aussi d'apporter la communion aux fidèles, c'est-à-dire aussi de venir vers eux, aller au contact. Enfin, le prêtre est serviteur des familles. C'est la chose la plus importante. Il est au service des familles et non les familles qui doivent se mettre à son service. Et ça, c'est toujours une tentation présente qui peut exister. Le plus grand fruit de la présence du prêtre dans une famille se résume dans cette phrase, et qui m'est très chère. Que la paix soit dans cette maison. C'est un cri, un appel de Jésus à chaque fois qu'il entre dans un lieu. Je pense que c'est le cri et l'appel de Jésus à chaque fois qu'il entre dans une âme. La paix intérieure, la paix de Dieu, caractérise souvent la présence de Dieu dans notre âme, même si parfois il peut permettre qu'une âme puisse éprouver certaines souffrances intérieures, mais qui ne durent jamais. Il est bien difficile de garder la paix intérieure d'une âme, nous le savons tous, à travers les tentations intérieures, les souffrances physiques, les humiliations, les nombreuses insécurités qui peuvent exister. Ça, c'est difficile. Mais il est souvent encore plus difficile de maintenir la paix d'une famille, puisque la famille, je dirais, est la somme des actions bonnes, mais aussi moins bonnes ou mauvaises, de ses membres, qui se sanctifient ou non, les uns pour ou par les autres. Alors, à la suite de Jésus, le prêtre doit tout faire pour faciliter, pour aider à ce que la paix de Dieu, cette présence de Dieu soit réelle dans une famille. Encore une fois, par sa prière, par ses conseils, par sa présence et ses visites quand il est nécessaire. Mais il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait le problème pour arriver. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces visites par lesquelles aussi le prêtre connaît bien les brebis qu'il doit aimer. Le prêtre est celui qui a le regard extérieur, à la fois intime, puisqu'il connaît parfois les âmes, mais aussi extérieur, ce regard de Dieu sur les choses et les personnes de la famille. Ainsi, le prêtre est présent dans la famille et la famille vit en présence du prêtre. Le prêtre, s'il est fidèle et humble, a les grâces, parce qu'il va s'effacer devant Dieu. Il a les grâces pour voir les choses et les personnes divinement, au moins essayer. Le prêtre n'est pas rémunéré à chaque fois qu'il reçoit quelqu'un ou qu'il va dans une famille. Il le fait toujours gratuitement pour le bien des âmes. Ainsi, un des rôles principaux du prêtre dans toute communauté, mais surtout dans la famille, est d'être un artisan de paix. Alors ça fait toujours un peu moderne quand on dit cela, artisan de paix, mais c'est vrai, c'est très important. Et il suffit de voir l'exemple des saints. Mais attention, si vous voulez aider cet artisan de paix, n'attendez pas qu'il y ait la guerre. C'est dans la paix que l'on construit une plus grande paix intérieure. Que la paix soit dans cette maison. Enfin, dernier point, quand le prêtre est présent à l'esprit d'une famille, de différentes manières, quand on l'accueille, quand on prie pour lui, quand on le respecte comme homme de Dieu, en essayant de toujours en parler en bien, alors la famille sera d'autant plus chrétienne. Elle n'aura pas une certaine double vie avec la famille du dimanche, bien habillée, qui se lève tôt, qui va à la messe, et puis la famille en semaine où, oups, on oublie complètement qui on est. Attention à cette tentation. Donc le prêtre, d'une certaine manière, avec d'autres choses, c'est pas le centre de la vie de la famille non plus, mais doit être présent un petit peu dans la vie quotidienne. En effet, on ne peut pas aimer ou désirer ce que l'on ne connaît pas. Et voici un des fruits de la présence du prêtre, pasteur et serviteur des familles. En effet, c'est l'éveil de vocation en général, parce qu'on voit ces hommes ou ces jeunes qui ont décidé un jour donné de se consacrer totalement pour une chose ou pour les âmes, pour les personnes. Ça marque beaucoup les jeunes et les enfants de voir cela, en plus de l'exemple de leurs parents, évidemment. Mais cela va beaucoup aider à l'éclosion de vocations sacerdotales et religieuses. Le prêtre, homme de l'autel, doit savoir pouvoir se rendre abordable, même et surtout des âmes les plus simples et timides, et les enfants. Ces enfants qui ont des âmes, et ces âmes sont appelées à recevoir la grâce. Ces âmes qui sont appelées à un bel avenir, ils ont toute la vie devant eux. Il y a tout à faire. Saint Jean Bosco, qui avait un grand souci des vocations, ce grand prêtre et éducateur de garçons, insistait beaucoup pour que ces salésiens, ces prêtres, soient abordables par les petits-enfants. J'ai un souvenir de séminaire où nous avions la grâce d'avoir un prêtre salésien, le père de Sèze, qui était un prêtre remarquable, un saint prêtre, que certains peut-être d'entre vous ont connu, qui était assez peu abordable, d'une certaine manière, pour nous séminaristes. Ils nous ont, ils nous renvoyaient loin souvent, il était assez bourru, mais il souffrait énormément, physiquement. On a toujours l'impression qu'il était en contemplation. Mais dès qu'il voyait des tout petits enfants arriver vers lui, allemands souvent, il ne parlait pas du tout allemand, et là, tout d'un coup, il changeait complètement physiquement. Il faisait des gestes, il jouait avec eux. Et incroyable, il pouvait rassembler autour de lui des enfants qui ne parlaient pas sa langue et leur raconter des histoires. Et les enfants ne pouvaient pas faire autre chose que de le regarder. Ce vieillard, il faisait vraiment vieillard. Oui, le prêtre doit être abordable. Surtout des petits-enfants. Et s'il est des petits-enfants, il le sera des adultes. Mais pour cela, il doit rester à sa place comme homme, parce que voilà, il est toujours homme, c'est pas un ange, mais homme de Dieu. Dans la prière, les conversations, il doit savoir parler, et aussi dans les jeux. Et ainsi, les familles connaîtront et aimeront la grandeur du sacerdoce. Ce sacerdoce qui est une participation du sacerdoce du Christ. Pour conclure, il faut des prêtres. Pour que les familles grandissent, mais aussi il faut aussi des véritables familles chrétiennes, ou des vocations sacerdotales équilibrées, et surtout solides, puissent éclore. Le prêtre et la famille sont donc complémentaires et ont pour fin commune le salut de chacun. Mais c'est d'abord au prêtre de se mettre à la suite du Christ, de montrer l'exemple au jour le jour, et non simplement au nom d'un sacrifice initial de sa vie au service des âmes, et qu'il perde, je dirais, l'ardeur et la générosité du temps de son ordination, ou du moment où il a répondu oui à l'appel de Dieu. Le prêtre transmet le Christ par son enseignement, par les sacrements qu'il donne et par les conseils qu'il peut dispenser. Il est serviteur des familles et pasteur des âmes qu'il doit connaître et aimer. Moi, je suis la porte des brebis. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est dans l'évangile de Saint Jean, sur le bon pasteur, où le bon pasteur se compare, et donc le prêtre, à une porte. Quand on construit une maison, c'est pas forcément aux portes auxquelles on pense en premier. La porte est une des choses les plus nécessaires, je dirais, mais les plus cachées. Il ne fait que là que pour faire passer la grâce de Dieu. Alors demandons à Notre-Dame du sacerdoce de protéger les prêtres de son fils, que ceux-ci soient des portes et qu'ils ne la ferment pas par leur orgueil. Prions aussi pour que Notre-Dame du sacerdoce protège les familles chrétiennes qui sont si belles ici à Versailles, toutes ces âmes qui ont choisi d'aimer son fils par-dessus toute chose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.